Bonjour à tous. Ben, je commencerai rapidement en disant à quel point je suis contente moi aussi d'être ici aujourd'hui et contente aussi de faire l'exercice qu'on va essayer de faire en improvisation avec Jean-Pierre. Et puisqu'il me revient comme ce matin, vis-à-vis de Victor, de commenter un de ses textes en sa présence, et de sorte à ce que on va faire en fait un exposé à deux voix. Donc, le texte que nous commentons, c'est un texte publié par Jean-Pierre Zirotti en 1997. Dans une revue chérie à l'époque, Les Cahiers de la Méditerranée, une petite revue, et c'est un texte qui n'est pas long d'ailleurs, mais qui concentre une pensée que Jean-Pierre avait articulée à ce moment-là et présentait, rendait publique sur la question de la situation scolaire des enfants d'immigrés. Il intitule son texte « Enfants d'immigrés à l'école » ou « La dynamique de l'altérité ». Alors le texte est écrit, on peut le dire en premier point, en réaction par rapport à une étude statistique qui venait d'être publiée par l'ADEP, c'est-à-dire l'instance qui produit les statistiques officielles de l'éducation nationale, une étude par Vallée et Jean-Paul Caille sur les élèves étrangers ou issus de l'immigration dans l'école ou le collège français. Cette étude était novatrice à plusieurs égards. Elle travaillait sur un panel d'élèves entrés en 6e en 89, qui avait été suivi jusqu'à la fin de la 3e et à l'orientation. Et pour la première fois, sous la plume de chercheurs du ministère, on essayait de mesurer la situation scolaire et le parcours scolaire d'élèves qui étaient non pas des élèves simplement étrangers, comme faisait jusqu'à présent le ministère. Il ne reconnaissait la différence que entre élèves français et élèves de nationalité étrangère. Là, il acceptait l'idée qui était très représentée par les sociologues à l'époque, qu'il fallait regarder un peu plus profondément la situation des élèves qui, éventuellement ayant la nationalité française, avaient néanmoins un rapport à l'immigration. Et pour ce faire, il avait donc les chercheurs de l'ADEP avaient identifié des attributs étrangers en l'absence d'autres informations qui étaient dans le panel. Hein, et ils utilisaient ces attributs étrangers et leurs combinaisons pour avoir accès à des mesures du degré d'extranéité, en quelque sorte, des élèves, et essayer de quantifier les parcours scolaires associés à ces indices d'extranéité. Alors, les attributs étrangers qu'ils prenaient en compte, c'était la nationalité, bien sûr, mais aussi le lieu de naissance, en France métropolitaine ou hors de France, les années scolaires hors de France, éventuellement, les parents, le fait que les parents aient vécu hors de France et leur ancienneté en France et la langue parlée régulièrement en famille. Donc un ensemble d'attributs qui permettaient d'identifier des élèves qui avaient un lien distant ou plus proche à l'immigration et dont on allait regarder ce qu'ils faisaient au collège. Comme les données permettaient aussi de savoir ce qu'ils avaient fait à l'école, ça nous donnait une vision assez riche, beaucoup plus riche que ce qu'on avait jusqu'à présent, des parcours de ces élèves. Ils prenaient également en charge, avec une ingénierie statistique beaucoup plus raffinée que précédemment, une variété d'indicateurs, de facteurs explicatifs possibles, testés du côté des parents et du contexte, donc la PCS, le diplôme du père, diplôme de la mère, activité de la mère, le sexe de l'enfant, la taille de la fratrie, le rang dans la fratrie, s'il y avait des frères et des sœurs qui avaient poursuivi leurs études, et la structure de la famille, donc quelque chose de tout à fait riche. Alors, la conclusion de cette enquête était inattendue. C'était que, toute chose égale par ailleurs, les élèves en question avaient des scolarités élémentaires plus marquées par la difficulté, ils redoublaient plus souvent, mais un parcours au collège dans la moyenne peu écartée de la moyenne et une orientation à l'issue de la troisième relativement plus favorable, toutes choses égales par ailleurs, si du moins on considère comme défavorable le fait d'être orienté en lycée professionnel. Plus précisément donc, les élèves ayant des liens avec l'immigration apparaissaient comme, toutes choses égales par ailleurs, moins souvent orientés en lycée professionnel que les autres. Les chercheurs se disaient, tiens, comment ça se fait ? Ils examinaient les notes présentées à la fin de la troisième et les documents dont ils avaient connaissance relatifs à ce passage troisième seconde, et ils trouvaient que ce qui distinguait les élèves, finalement, ce n'était pas les notes données par les enseignants. Je ne pense pas qu'ils avaient accès aux notes du brevet, je ne sais plus. Peu importe de le détail, ils avaient accès. En tout cas, ce qu'ils trouvaient comme distinctif, c'était les demandes d'orientation présentées par les élèves et leurs familles pour le passage troisième seconde. Les familles, les élèves, se manifestaient comme étant plus ambitieux, plus désireux de passer en seconde générale et évitaient plus systématiquement l'orientation en lycée professionnel. Donc une explication proposée du coup par la mobilisation des familles. Cette explication était dans l'air du temps. Hein. Je dirais que d'autres travaux l'utilisaient aussi et l'ont encore utilisé après. Hein. La thèse importante d'Emmanuel Santelli finalement travaille aussi en termes de mobilisation des familles. En tout cas, cette étude a, comme vous l'imaginez, beaucoup interpellé les chercheurs travaillant sur les parcours scolaires des enfants d'immigrés, puisque les représentations qui circulaient sur cette question, c'était quand même que ces enfants avaient plus de difficultés dans leur parcours scolaire et plus souvent des orientations en lycée professionnel, et on commençait à parler de discrimination. Évidemment, ce constat des chercheurs a été présenté triomphalement, parce que ça permettait d'une certaine façon à l'institution de se dédouaner des soupçons d'injustice qui pesaient sur elle et de ménager ses prétentions à l'égalité républicaine. Et puis aussi, ça banalisait la situation scolaire des enfants d'immigrés. Les enfants d'immigrés, ce sont, comme disait Sayad d'ailleurs aussi, des élèves français. Alors, Jean-Pierre Ziroti, dans ses travaux de cette époque, ne conteste pas cette objectivation statistique. Il emploie le terme objectivation statistique, mais il va s'efforcer de recadrer ce travail en réfléchissant à ce qu'il appelle la dynamique de l'altérité dans le parcours scolaire. Et il va essayer de prendre en compte, d'avancer l'importance de ce qu'il appelle les conditions précises de la scolarisation des enfants et au nombre desquelles l'importance de fait qui est donnée aux origines nationales et culturelles dans les interactions scolaires. Alors, everyday racism, ou bien le fait que l'école n'est pas culture fair. Mais, ça c'est une des questions que je peux déjà poser à Jean-Pierre, c'est, il ne fait pas du tout allusion aux données empiriques sur lesquelles il appuie cette thèse. Les enquêtes dont il parle, il en parle très rapidement, donc tu vas pouvoir, si tu veux bien, Jean-Pierre, revenir un peu là-dessus. Donc, ce qu'il dit, en tout cas, c'est que les élèves en question vivent les différences de scolarité qu'ils éprouvent en les référant au cadre explicatif qui leur viennent de l'extérieur, de la situation de leur famille dans la société française et de la constitution du problème public de l'immigration comme un problème lourd pour la société française. Je traduirai ça en disant le jeune issu de l'immigration, le jeune maghrébine en particulier, inscrit dans son expérience scolaire sa condition minoritaire, même si Jean-Pierre à ce moment-là n'utilise pas le concept de minoritaire. Il inscrit dans son expérience scolaire la condition minoritaire qui est marquée par la stigmatisation, et là Jean-Pierre utilise beaucoup le concept, donc un concept issu de Goffman, et à l'inverse aussi, il inscrit son expérience scolaire dans sa condition minoritaire. La condition minoritaire imprègne en quelque sorte l'expérience scolaire du jeune. Bon, Jean-Pierre développe cette thèse dans d'autres travaux, et notamment dans un chapitre que tu avais donné au livre collectif sur l'école et le défi. Alors, le parcours argumentatif, j'en suis où ? Bon, le parcours argumentatif commence par l'exposé de la problématique, à savoir l'analyse des parcours scolaires des enfants d'immigrés en termes de reproduction des inégalités. Donc, toutes choses égales par ailleurs, ces enfants n'ont pas des trajectoires scolaires différentes des enfants de même condition. C'est insuffisant, parce que cela ne rend pas compte de la force de l'expérience, de la stigmatisation que ces enfants éprouvent, et que les parents, que les groupes issus de l'immigration maghrébine éprouvent plus généralement. Et cette stigmatisation, cette prégnance des origines nationales et culturelles dans la société est retravaillée, et là encore une autre énigme sur laquelle il va pouvoir parler, il exprime les choses comme ça, elle retravaillée, en caractéristiques ethniques, il parle plus loin de marquage ethnique au sein de l'école, ouvrant sur des processus d'attribution et de revendication identitaire. Donc les rapports de sens que nous, les élèves, avec le process scolaire sont imprégnés par cette réalité-là, ce que l'objectivation statistique manque totalement. La thèse qu'il avance à ce moment-là, liée à ces observations, c'est que les points de vue des Français, franco-français, comprendre franco-français, français ethnique, majoritaire, et des Maghrébins sont différenciés. Les Maghrébins, et ça va être la thèse forte de Jean-Pierre, les Maghrébins, en tant que tels, se constituent en groupe, sont constitués par cette expérience en groupe, sont et se constituent en groupe. Ils adoptent une posture revendicative particulièrement accentuée, et c'est ce qui explique leur vœu d'orientation plus ambitieux et en direction d'une poursuite d'études. Ils résistent au verdict scolaire, d'une part. Jean-Pierre n'emploie pas le mot verdict scolaire, mais ça y est, hein, c'est implicite. Ils résistent à l'évaluation et ils développent une résistance aux catégorisations scolaires. Alors, quelle est la ressource qu'ils mobilisent pour ce faire ? Ben, c'est leur ressource groupale. Jean-Pierre évoque rapidement l'idée que cette résistance trouve son site principal en famille, dans la famille. C'est ce que fait par exemple Catherine Delcroix quand elle regarde un peu ce qui se passe pour la famille Nour. Hein. La famille est le siège d'un esprit de résistance, d'une mobilisation collective qui permet à ses membres de résister. Cette hypothèse n'est pas évoquée, par Jean-Pierre, c'est pas celle-là qu'il retient. Il retient l'idée qu'il forme un groupe d'élèves qui s'identifient en tant que tels et qui déterminent un espace de totalisation, sous-entendu pour l'observateur. Hein. L'observateur va constituer ce groupe, va considérer que ce groupe constitue le lieu où l'ensemble des données ethnographiques recueillies à l'enquête peut se trouver son unité. Alors, il théorise à partir de là, il re-théorise et il généralise. Il n'y a pas forcément de ressemblance avec ceux dont ils partagent les conditions de vie, à savoir les classes populaires. Il ne va pas jusqu'à dire qu'ils s'y opposent, mais il n'y a pas de ressemblance. Et ils se confrontent non pas à leurs voisins franco-français, mais à ce verdict de dévalorisation, de différenciation dévalorisante qu'ils reçoivent de la production publique du problème de l'immigration. Le débat public questionne leur légitimité à vivre ici et eux affirment leur légitimité à y être dans l'école. Et là, il y a quelque chose sur quoi, là encore, j'aimerais bien que Jean-Pierre développe. C'est une tension qu'il observe entre la légalité des verdicts scolaires qui leur impose une position défavorable devant le succès scolaire. Ils échouent à l'école ou ils n'ont pas des parcours grandioses. Et la légitimité de leur être là en tant qu'élève et leur prétention à l'égalité en tant qu'élève. Une tension que produit l'institution entre des verdicts défavorables, mais une aspiration à l'égalité, la conviction qu'ils ont droit d'être égaux, qui est assez intéressante. C'est une retraduction donc de certaines idées de Bourdieu dans une perspective complètement renouvelée par l'approche de Jean-Pierre. Donc voilà, il forme un collectif à ce titre-là qui combine à la fois stigmatisation et attente d'égalité et donc ambition particulière. Et à la fin, Jean-Pierre fait une ouverture intéressante et intrigante en disant que comment sortir, tu fais une proposition normative en quelque sorte, adressée à l'éducation nationale et au pouvoir public plus généralement, comment se sortir de cette tension et de cette situation paradoxale, eh bien, c'est en faisant fond, dit Jean-Pierre, sur l'enseignement des droits de l'homme et l'apprentissage de la citoyenneté. Vu que l'école est pour ses élèves, je cite, le seul espace public de débat qui leur soit partiellement ouvert, ça m'a plu de voir l'école présentée comme un espace de débat, elle pourrait, je cite, développer l'apprentissage par l'expérience du débat démocratique et ainsi favoriser l'adhésion aux valeurs qui le sous-tendent. Donc affirmation du potentiel de citoyenneté des élèves dans l'école et du potentiel de citoyennisation de l'école, qui est quand même une vue assez optimiste de l'école, en tout cas écartée de la façon dont l'école fonctionnait à ce moment-là. Alors un commentaire très rapide. Bon, là, je vais pas du tout développer sur l'idée que la question posée par le rapport de Valécaille, cette objectivation statistique des parcours des élèves, c'est une question qui reste actuelle et qui a été, dont les données récentes permettent de reformuler les bases. Je vais pas le développer. Je suis frappée par la proximité épistémologique des travaux de Jean-Pierre avec à la fois Bourdieu et puis Auriol et puis ce qui s'est dit. La création ici d'une sorte de creuset pour mettre en tension les différentes épistémologies disponibles. Et la thèse donc de Jean-Pierre qui articule à la fois l'identité comme attribution, c'est-à-dire comme stigmate, et puis, et comme souffrance liée à ce stigmate, et puis l'identité comme appartenance avec une possible revendication d'un particularisme qui serait propre. Et deuxième affirmation de Jean-Pierre, un groupe qui se constitue à partir de cette base, de ce socle identitaire, à la fois négatif et positif, et l'idée que le cadre scolaire est à la fois blessant, et puis ressources. Alors, les limites de cette recherche, je ne vais pas le développer, mais en gros, je voudrais dire une collectivité, on pourrait quand même questionner ça, et plusieurs des exposés qu'on a eus dans la journée et hier aussi permettent de le questionner. Quand on a évoqué l'existence et qu'on a parlé de déconstruction des cultures, on a aussi développé l'idée que circonscrire des groupes avec des périmètres dont on observe les comportements particuliers, c'est assez daté. C'est une anthropologie intégrative assez datée et qui effectivement renvoie à une altérité de l'observateur et entre les majoritaires et les minoritaires. Mais on a maintenant tendance à privilégier des régimes de conduite plus souple, plus fluide, comme je voyais un des alinéas d'une des diapos de Patrick qui disait ça, hein, des modes de discrimination. J'ai fini là tout à fait parce que je voudrais vraiment que Jean-Pierre Pain qui sont effectivement, qui existent, et des registres d'action également à l'initiative des élèves qui sont variables, qui pour certains ne dressent pas de frontières entre eux et nous, pour d'autres au contraire en dressent. C'est contextuel, c'est activé par des situations qui peuvent être différenciées. Et j'avais prévu à ce moment-là de dire juste un mot sur le vocabulaire interethnique. Interethnique est quelque part porteur de cette idée qu'il y a des groupes qui se distinguent les uns des autres. Et moi, je n'emploie pas interethnique, Weber non plus, je ne vais pas me mettre au niveau de Weber, mais enfin, il n'emploie pas interethnique, il emploie ethnique. Et activer l'ethnicité dans les relations sociales, ça ne veut pas dire que des relations se forment entre des ethniques et des autres, mais ça veut dire que des logiques d'action mobilisant des représentations de l'origine s'activent. Et c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus peut-être riche de perspectives de travailler là-dessus. Juste un mot pour en dire encore que l'anticipation qui pouvait paraître utopique de Jean-Pierre sur la citoyennisation des élèves dans une école qui serait renouvelée, elle est tentée actuellement par un renouveau du programme d'éducation civique dans l'école. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est l'inscription d'une nouvelle matière qui s'appelle enseignement moral et civique. Cette matière est complètement révolutionnaire par rapport au programme habituel, au curriculum habituel français. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je vous le signale. Regardez le programme dans le web, vous verrez. Ce n'est pas du tout un programme habituel de matière défini par le cognitif exclusivement. C'est une matière maintenant qui prétend former le jugement normatif des élèves.
Merci François. On va peut-être... Oui. On va laisser la parole à Jean-Pierre. Jean-Pierre. Tu as 5 minutes.
Ouais,
5 minutes, après on va laisser.
50. J'ai pas le temps qu'il y a eu Victor ce matin. Attends. Je suis toujours victime de discrimination ici.
J'ai pas terminé.
Où est la directrice ensuite, je me plains.
Tu réponds immédiatement à Françoise, ensuite on va laisser la parole, les questions à la salle et tu pourras encore éventuellement intervenir.
Oui.
Ah oui.
Je sais ce que ça veut dire. Par expérience.
5 minutes.
Oui, on perd du temps. Vous savez, quand on est à la retraite, on a beaucoup de temps. Bon. Je remercie Françoise pour son commentaire, donc pour sa descente en flamme de mon travail, mais en flamme de, comment dire, avec la passion de la symbiose, de la réunion de nos analyses. Pour apporter des précisions, pour répondre à sa première question, pas de données empiriques, ça s'y prêtait pas dans ce cadre-là. Sur quoi repose ce papier? C'est un papier de synthèse, de recherche commencé, j'ai essayé de dater, en 1970. Ensuite, un premier rapport de recherche pour le ministère de l'Éducation en 79, un autre en 1980, un autre pour le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale en 1984, et un petit dernier pour le FAS en 1993. Lise, ici présente, a collaboré à un certain nombre de ces rapports, et c'est de quoi je parle, et comme Victor l'a dit ce matin, ça a été aussi une cheville ouvrière d'un certain nombre de travaux faits sur la scolarisation des enfants d'immigrés. Je cite une première référence qui m'a amené, comme je l'ai dit tout à l'heure, hier, sans aucune prétention, à être recruté par Michel Auriol, Paul Vald et Raymond Hesch. C'était le trio célèbre, alors que je faisais mes valises pour rejoindre un bureau dans la tour Montparnasse à Paris, où j'avais dégoté un job. C'est que j'avais fait un mémoire de maîtrise, qui était remarqué par mes professeurs. À l'époque, on pouvait devenir assistant. Bon, ça, c'était moins glorieux qu'à TR maintenant, hein. Très mal payé, à l'université, et simplement sur un mémoire de maîtrise qui avait été remarquée. Et ce mémoire de maîtrise, j'avais fait sur la question, sur l'évaluation en relation avec les thématiques développées au sein du Centre associé de formation aux relations interethniques, créé par Michel Auriol au sein de l'IDERIC. Donc, ce que nous avait enseigné dans le cadre de ce centre et des enseignements de maîtrise que nous suivions à l'époque, je l'avais mise en œuvre pour analyser les impacts de l'action éducative et de la scolarisation sur ce qui était encore autorisé à appeler à l'époque des groupes tziganes, l'un sédentarisé dans le département, dans un hameau tzigane exemplaire au plan national, le hameau du Plan de Grâce, et d'autres qui étaient des groupes itinérants qui venaient passer l'hiver, un peu plus au chaud qu'ailleurs, sur les terrains de caravaning et de camping de la Côte d'Azur, ce qui bien sûr maintenant est totalement impensable. Ils sont refoulés, rejetés et puis admis sur ces terrain. Et ce travail, qui était aussi un travail collectif, je revendiquais hier aussi d'être un ancien de 68, un gaucho, qui avait rallié Auriol d'autant plus volontiers que lui aussi, bon, il s'est décrit comme étant gauchiste du PSU. Bon, moi j'étais plutôt de la gauche prolétarienne, mais n'empêche, on pouvait quand même se parler un peu. Et si je m'étais J'avais refusé le saut dans l'inconnu que signifiait à l'époque pour ce mouvement radical l'établissement. Compte tenu de mon histoire, mes origines, etc., il n'était pas question d'abandonner l'enseignement supérieur qui avait été chèrement acquis. J'étais le premier de ma génération dans ma famille à passer le bac. Donc j'étais pas prêt de lâcher aussi facilement que ça. Mais en revanche, c'est dans le choix de mes objets de recherche qu'en quelque sorte, j'ai maintenu une continuité idéologico-politique ou, disons, ontologique, en termes de valeurs plutôt. Et mesurer les effets de la scolarisation et de l'action éducative sur une minorité, en l'occurrence la plus dominée des minorités, la minorité tzigane, est quelque chose qui m'avait particulièrement mobilisé et on m'avait invité. Pierre Bessénier, directeur de l'IDIRIC, m'avait cédé généreusement son billet d'avion pour me permettre d'aller communiquer pour la première fois de ma vie, et ça c'est pas renouvelé souvent, à un congrès international de sociologie, je crois que c'était le 7e ou le 8e, à Toronto en 1974, où je suis arrivé tremblant, on révisait le peu d'anglais que je maîtrisais, et je vous assure pas très à l'aise, où j'ai pu exposer sur les effets déstructurants de l'action éducative au sein d'une minorité, ce qui n'avait pas du tout plu à la présidente russe de l'époque de ce comité, étant donné la façon dont en Union soviétique on traitait cette minorité. Passons. Donc, une continuité entre ce premier terrain et les terrains suivants, parce qu'ensuite, recruté à l'IDIRIC, on a dit, bon, les tziganes, c'est bien joli, la guitare, les gitans, tout ça, le folklore, bon, je caricature un peu, maintenant il faut passer aux choses sérieuses. On a une demande du ministère de l'Éducation sur les conditions d'accueil des enfants d'immigrés dans l'appareil scolaire français. Maintenant, tu continues ce que tu as fait, mais tu te mets là-dessus. Et on s'est engagé, puisqu'on avait des financements, et ce qui a permis effectivement de faire une recherche avec une ampleur limitée. Quand je vois ce que nos collègues ont fait dans le cadre de Théo, évidemment, je bave d'envie, mais je suis très content qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait, parce que enfin, je trouve une validation d'une partie des données qu'on a pu produire dans les années 80 et qui ont été fortement critiquées au plan national, y compris par Maryse, qui était là tout à l'heure, et on s'en est déjà un peu expliqué, qui nous reprochait aussi d'être culturalistes et de détruire les potentialités d'écoles populaires, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, les recherches qui ont été conduites et qui ont nourri cet article s'appuient sur un arrière-plan qui est ce premier travail, mais aussi sur les recherches successives qui ont répondu à des commandes ou à des contrats décrochés dans le cadre de réponses à d'appels d'offres, avec une volonté de toujours avancer sur deux pieds. Premier pied, l'objectivation statistique. J'ai été formé ici à la sociologie, entre autres par un excellent statisticien qui était Michel Novy, qui nous a beaucoup aidés. Je pense que je ne serais jamais devenu prof, d'ailleurs, c'est simple. Je n'aurais pas fait de carrière universitaire sans lui, parce que ce qui a donné un certain relief peut-être à certains des travaux, c'est que ça reposait sur une base statistique qui, du moins à l'époque, considérait-on, tenait la route. Faire une analyse de structure latente, c'était pas courant. C'est ce qu'on avait fait dans le cadre de l'enquête sur les gitans, avec une analyse d'un job sur un ordinateur d'Orsay, parce qu'on n'avait pas ça ici sur place. Et ensuite, faire de l'analyse de dépendance causale, c'était pas très courant. Il y avait peu de sociologues qui faisaient ça en France à l'époque, et il fallait effectivement la compétence d'un statisticien pour Michel Novy afin d'y arriver. Donc, objectivation statistique, d'une part, qui a permis d'établir, et je tiens beaucoup à ça, on a été les premiers à montrer qu'il y avait un processus de discrimination qui jouait à l'intérieur de l'appareil scolaire, et nous l'avons identifié au niveau des paliers d'orientation. Ce qui a été une totale découverte, c'est-à-dire que là, c'est effectivement l'enquête empirique et le travail statistique, avec toutes les autorisations du ministère, ce qui faisait qu'on avait accès à tous les dossiers, qui nous a permis d'établir ce fait. Après, le travail plus complexe, qui m'a pris des années et qui m'a d'ailleurs laissé paralysé pendant pas mal de temps à cause de soucis épistémologiques, etc., et méthodologiques, c'était de mesurer les effets de ces conditions d'accueil dans l'école, savoir processus de discrimination, regroupement dans les classes les plus défavorisées, les classes porteuse d'humiliation, que ce soit les classes de perfectionnement dans le primaire ou les sections d'éducation spécialisées dans le secondaire, et elles ont changé d'appellation, mais c'est tout le cursus de relégation. Toutes ces données ont été confirmées aussi au plan national par la suite. Hein, c'était pas compliqué, il suffisait d'aller faire de la stat élémentaire et on montrait les choses. Mais les effets des conditions de l'accueil que je viens sommairement de rappeler, que nous avions objectivées statistiquement, il s'agissait d'en mesurer les conséquences en termes de socialisation de ces élèves. Et là, la surprise a été, seconde donnée, résultat d'enquête non prévu, parce que j'étais bourdieusien et que je pensais, tout en étant aussi fortement sous l'influence d'Auriol, que doublement soumis à une domination économique d'enfants de travailleurs immigrés, une domination culturelle, enfants d'Arabes, enfants venant des pays du Maghreb, enfants de musulmans, même si cet aspect-là, on le traitait peu à l'époque, ces enfants allaient être aliénés avec une utilisation imprudente de ce concept, je le reconnais. Or, la surprise a été que, toujours dans une démarche comparative, quand même à peu près correctement formée à la méthode d'enquête sociologique, en comparant les discours recueillis dans l'espace scolaire auprès d'adolescents issus de l'immigration maghrébine ou d'adolescents français issus d'immigration plus ancienne, seuls émergeaient comme porteurs d'un discours critique par rapport à leurs conditions de scolarisation, c'était les années 80, des enfants appartenant au groupe des Maghrébins. Et je dis bien, ils étaient effectivement les seuls dans tous les lieux où nous avons enquêté. Donc, l'étape suivante a été quoi ? De trouver les raisons, et ça a été mon objet de recherche quasiment jusqu'à la retraite, ce que j'ai rebaptisé, rendre compte de la genèse de l'acteur social critique. Parce que ce qui se révélait là, c'est qu'alors qu'on attendait un groupe particulièrement aliéné, on avait affaire, il n'y avait pas de mobilisation religieuse à l'école, etc., on avait affaire à un groupe au sein duquel existait une potentialité de discours critique, de prise de discours critique par rapport à l'institution scolaire et, en plagiant Bourdieu, mais avec lequel j'ai des désaccords, à l'ensemble des institutions de la société. Donc le germe, je suis en total désaccord avec Kepel sur les analyses qu'il fait du djihadisme actuel, je suis plutôt en accord avec Olivier Roy, avec quelques nuances, effectivement. Si à choisir entre les deux termes, je préfère islamisation de la radicalité, mais la radicalité, elle était en germe, nous l'avons constaté en analysant les conditions d'accueil dans l'école française à cette époque-là.
J'ai pas répondu à tout, mais... C'est très bien, merci.
C'est tout comme j'ai dit.